Les lobbies du tabac contre José Bové, prêts à faire éclater la vérité sur un coup de plomb européen, c'est le pitch d'Une affaire de principe, le nouveau film d'Antoine Rimbaud, en salle ce mercredi. Le réalisateur et José Bové sont nos invités aujourd'hui pour nous en parler. Opening week-end numéro 72, c'est parti.
Débriefing, c'est un mot valise, il faut le rappeler.
DiCaprio peut me dire merci.
C'est hyper beau le cinéma.
On a un fichier complet partout.
C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas.
Finalement, ce qui est important, ce sont les gens.
Des gens âgés qui mettent des lunettes.
Ils arrivaient à faire une estimation
comme des observateurs du cinéma.
Bonjour à tous ou bonsoir si vous nous écoutez à une heure tardive. Nous sommes ce soir au UGC La Défense avec deux invités exceptionnels qui viennent nous parler d'Une affaire de principe qui sort ce mercredi dans toutes les bonnes salles françaises, à commencer par son réalisateur Antoine Rimbaud. Bonsoir.
Bonsoir.
Et enfin, d'habitude on dit son acteur principal, on va dire son inspirateur principal, José Bové. Bonsoir José Bové.
Bonsoir.
J'en profite pour remercier une nouvelle fois l'UGC La Défense de l'invitation de nous permettre de faire ce podcast et en premier lieu Simon Le Sauvage qui nous permet à chaque fois d'avoir des super entretiens avec les équipes dans le cadre de l'Opening Weekend. Évidemment, comme d'habitude, je ne suis pas tout seul. Une nouvelle équipe de chroniqueurs de chic et de choc ce soir avec moi, à commencer par Charlotte Escolier. Bonjour, bonsoir Charlotte.
Salut Tom, bonjour à tous.
Monsieur Chiffre, Julien Bernard.
Bonjour tout le monde. Après, une nouvelle équipe, je ne suis pas sûr quand même.
Nouvelle équipe, l'équipe qui a déjà fait 72 podcasts. Et aux manettes ce soir, et un petit peu au micro aussi, j'imagine, Max Marjolais.
Coucou.
Je le disais, on est ce soir pour Une affaire de principe, le second film d'Antoine Rimbaud. Alors Antoine Rimbaud, pour nos auditeurs qui ne vous connaîtriez pas, Une affaire de principe, c'est votre second film. Oui. 5 ans après votre premier, Une intime conviction. Entre-temps, vous avez également été co-scénariste avec votre acolyte Robin Sykes, oui. Voilà, sur différentes comédies. Évidemment, forcément, quand on voit ce premier film par rapport au premier, il y a une filiation qui se fait assez facilement. C'est le thème du combat contre l'injustice, une nouvelle fois adapté d'une histoire vraie. Est-ce qu'il s'agit d'une filiation voulue ou c'est apparu finalement en cours d'écriture ?
C'est un mélange de choses, mais c'est quand même souvent inconscient, quoi, le fait de refaire... un film sur... Alors, le premier film, j'avais voulu faire un film sur la justice et interroger à travers une affaire judiciaire bien particulière, interroger l'institution judiciaire sur ses dysfonctionnements et interroger la part du doute dans la justice pénale. Là, j'ai l'impression que c'est plus sur le droit, avec un peu le recul d'essayer de réfléchir à ce que j'ai fait une fois que c'est fini. J'ai l'impression que j'ai voulu filmer là l'état de droit, voilà, plus que la justice et l'injustice.
Ça relie à un propos du film sur la justice versus le droit.
Voilà, qui vient directement de nos échanges avec José. C'est un des premiers trucs qui s'articule assez clairement le premier jour où on se rencontre. Attention, la justice, c'est pas le droit. Voilà. Mmh. Et la justice, c'est toujours imparfait, humain, et ça va jamais sans l'injustice. Hein. C'est toujours une question de point de vue. Le droit, c'est solide. Le droit, c'est la règle. Et là, c'est un film sur le respect de la règle, ou plutôt le non-respect de la règle, par José Manuel Barroso. Et l'objectif de nos protagonistes, c'est que la règle soit respectée. Voilà. Et puis aussi, on ouvre sur le vertige avant le vote d'une directive anti-tabac dans l'hémicycle européen. Et puis, on fait un flashback d'un an et on s'interroge sur ce qui s'est passé dans les coulisses de cette directive pour qu'on puisse en arriver là. Et donc, on raconte des dysfonctionnements aussi d'une autre institution que la justice. Et on regarde un peu là où ça fait mal, mais pour y croire encore. Voilà, c'est quand même ça l'enjeu du film. C'est de comprendre que nos institutions, elles fonctionnent encore et que ça a du sens de se battre sur ce terrain-là, celui du droit.
Et alors, dites-moi si je me trompe, mais c'est un homme qui fait le lien entre vous deux, votre coproducteur, Robert Guédiguian. Oui. D'abord, comment vous l'avez rencontré et comment il a fait le lien entre vous deux ? Pouvez-nous raconter cette histoire ?
Ouais, en fait, c'est... Bon, le producteur du film s'appelle Marc Bordure. Il fait partie de la société Agade Film qui a été créée par Robert Guédiguian. Et donc, Robert Guédian entend parler du projet qui est dans sa maison, quoi, même s'il ne s'en occupe pas personnellement. Et donc, au départ, on faisait avec mon co-scénariste Marc Sirigas des recherches sur les lobbies, pas particulièrement du côté de l'Europe. Et on est tombé sur cette affaire d'Ali, qu'on a trouvé assez extraordinaire, qui semblait vraiment être une synthèse de tout ce qu'on cherchait. Et on se rend compte que José Bové est omniprésent dans cette affaire, médiatiquement, et pour cause, il a mené une enquête avec son équipe dans les coulisses des institutions européennes. Là, on se dit, les institutions européennes, on ne les voit pas au cinéma. C'est un terrain de jeu extraordinaire. Des protagonistes, députés et assistants parlementaires, on n'a jamais vu. C'est ni des enquêteurs professionnels, journalistes ou policiers. Et pourtant, ils ont mené l'enquête. Et donc, on se dit... Et en tirant le fil, on se rend compte que José Bové a raconté cette affaire et cette enquête dans un des chapitres de son livre « Hold up à Bruxelles » sur ses années passées au Parlement européen. On lit ce chapitre. Et là, on se dit, mais il faut aller rencontrer José Bové. Parce qu'en plus, ça peut être un personnage de cinéma. Voilà, on trouve tout ça. Et du coup, Robert dit à Marc Bordure, le producteur, il dit, mais moi, je connais très bien José. Et là, je vais passer la parole à José qui va raconter...
Pour la suite de l'histoire. Voilà.
Alors, effectivement, c'est Robert Guédiguian, je pense que c'est il y a 3 ans, en été, au mois d'août. Je suis en vacances, tranquille. Et il m'appelle, donc je reconnais même avant même qu'il prononce 3 phrases, je sais que c'est lui, quoi. Hein, parce qu'il est inimitable. Ouais. Il me dit, ouais, il y a un jeune réalisateur, il a déjà fait un film, c'est bien, tout ça, il faut que tu le rencontres. Il veut faire un film, j'ai pas bien compris l'histoire, mais c'est sur le Parlement européen. Enfin bon, bref. Eh ben, j'ai écouté Robert, il n'y a pas de souci. Hein, parce qu'on avait fait des trucs ensemble tout au début du mouvement altermondialiste.
Ouais.
Avec Robert Guédiguian et toute la bande de la Société des réalisateurs de films, la SRF, avec Pascal Thomas et toute la clique. Quoi. Donc, bon, c'est comme ça qu'on se rencontre la première fois. Et donc, voilà. Et il me dit, oui, écoute, il n'y a pas de souci. Antoine peut m'appeler. Donc, Antoine m'appelle et puis on dit, rendez-vous à la maison sur le Larzac. Et donc, je vois arriver... Marc Sirigas et Antoine et qui viennent passer un week-end avec moi et Jean-Marc Desfiles qui est mon assistant et qui est joué aujourd'hui dans le film par Thomas VDB. Voilà. Et c'est comme ça que tout commence. Et maintenant, je quitte plus en fait.
Ouais, c'est ça. Oui, parce que, alors, on le rappelle, il y a une grosse tournée qui est en train de se terminer, voilà, sur laquelle vous, José, vous avez beaucoup accompagné le film. C'est une première pour vous, j'imagine, de faire partie d'une tournée en première, d'avoir cette interaction-là avec un public de cinéma. C'était quoi comme type d'expérience? Qu'est-ce que vous en avez ressorti de tout ça?
Alors, on a commencé à tourner le 20 mars, quoi. Donc, depuis le 20 mars, on est sur les routes. Ce soir, c'était pas du tout prévu que je sois là. Mais comme je devais encore dormir une nuit à Paris avant de reprendre le train pour rentrer chez moi, Antoine me dit, tiens, il y a encore une projection. On va faire la dernière, alors. Donc on a fait de la première jusqu'à la dernière. Donc c'est un peu magique. Ouais. Quand on se voit déjà au cinéma se faire interpréter par un Bully acteur, Lanners, par Bully Lanners.
Ça, on va y en revenir tout à l'heure, voilà, parce qu'il faut en parler forcément.
Et après, c'est vrai que de débattre ensuite avec des gens dans les salles tous les soirs, et parle à la fois du cinéma, du film, et puis on parle aussi après, évidemment, de l'Europe. Mmh. Et donc c'est un vrai débat citoyen qui s'instaure chaque soir. Alors, il y a des questions communes, mais parfois, il y a des choses différentes. Donc, c'est vraiment un bon moment. Et c'est vrai qu'on a pris un plaisir fou à tourner. Donc, on a vraiment fait couple en course avec Antoine, quoi. Et puis, à la fin, heureusement, tous les comédiens nous ont rejoints. Et donc, ça a été l'apothéose.
Alors, vous, José Bové, vous êtes un personnage important dans le film, principal. Mais il y a aussi un autre personnage que j'ai envie de mettre en avant. C'est le Parlement européen en lui-même. Puisque le film se déroule principalement dans le Parlement européen. Et il semble être, par son architecture, un espèce de lieu où toutes les actions sont possibles et infinies. Ça se ressent d'ailleurs dans une séquence qu'on retient, une séquence forte du film vers la fin, qu'on ne va pas dévoiler. Mais à quel point c'est un lieu qui a été inspirant pour vous, en termes de mise en scène, pour créer de l'action?
Alors c'est ça en fait, la question c'est créer de l'action. C'est-à-dire que nous on a essayé, la première envie... Le premier désir de cinéma, c'était ce que j'appelle un thriller de bureau, qui parfois fait peur, parce que ça a l'air chiant. Mais je voulais faire ce que les Américains font tout le temps, en fait, mais avec un ADN européen et chez nous, quoi, avec une histoire qui se passe chez nous. c'est-à-dire des personnages très préoccupés qui marchent dans des longs couloirs en parlant très très vite. Ils appellent ça du walk and talk. Et donc, voilà, un film un peu un techno-thriller, un film institutionnel un peu, c'est-à-dire vraiment au cœur des institutions avec des codes que le spectateur n'a pas encore, qu'il va falloir apprendre, et puis avec quand même une écriture de suspense et un film d'enquête. Et en fait, quand je rencontre José, je comprends que sa façon de faire de la politique est très différente de ceux qu'on peut croiser au Parlement, et qu'il vient du militantisme, du syndicalisme, il a fait énormément d'actions, au sens vraiment des actions, et on comprend que le film doit être beaucoup plus en mouvement encore que l'idée qu'on s'en faisait au départ, que ça va être un film un peu drôle, parce que José a un sourire aux lèvres en permanence, qui prend beaucoup de plaisir à la bagarre. On sent ça dans leur récit, à lui et à Jean-Marc Desfiles. Donc on se dit que c'est un film qui va être un peu du côté du sourire et du plaisir, et aussi qui va être du côté de l'action, et qu'il va falloir sortir de nos bureaux. Voilà. Parce que c'est un film qui doit engager le spectateur un peu physiquement. Et donc la scène à laquelle vous faites allusion est probablement ce que j'appellerais le braquage de la Commission européenne.
Complètement ça.
Qui ressemble à un hold-up. C'est marrant parce que ça renvoie au hold-up à Bruxelles, qui est le nom du livre de José, qui est déjà d'ailleurs le livre de José est déjà du côté du thriller. C'est déjà raconter les institutions européennes de l'intérieur comme un polar. C'est exactement ce qu'on a voulu faire. Et avant même que je lise le livre et que je tombe dessus, c'était déjà voilà, nos désirs se sont rencontrés. Je me suis perdu dans ma réponse, mais oui, ces lieux sont hyper inspirants, d'abord parce qu'ils sont très peu filmés, et que le film est à la fois sur des terrains qu'on ne connaît pas, avec des codes qu'on ne maîtrise pas, et en même temps c'est un film de genre, c'est-à-dire que c'est un film qui assume les codes de cinéma, qui est ce langage universel qu'on connaît tous, qui a été déjà bien exploré, et donc on s'est servi de ces codes-là pour aller vers un film qui est quand même du côté du plaisir, du suspense, avec une enquête haletante, avec des rebondissements et avec des scènes presque de comédie d'action. C'est-à-dire qu'il y a à certains moments comme ça un petit pas de côté pour, même si l'affaire est très sérieuse, prendre un peu du plaisir à la raconter.
Presque parfois du thriller américain dans la façon de faire. En tout cas, c'était ma transition pour nous amener à parler du box-office international et US de ce week-end. Julien, qu'est-ce qu'on retient de ce week-end aux États-Unis et dans le monde ?
Alors cette semaine, évidemment, sur le box-office US, on avait Challengers qui a ouvert le bal avec 15 millions de dollars de recettes. Alors ce qui est marrant sur le public au niveau, parce que ce qui était intéressant un petit peu sur le film, c'était au niveau des âges. Qui est allé voir ce film ? Il y a eu 41% de 18-24 ans, il y a eu 35% de 25-34 et 22% de 35 ans. Et si on veut le comparer, son opening weekend par rapport au film, on va dire, de tennis, de sport, même si c'est pas exactement le propos du film.
C'est le débat toujours. Hein. Est-ce que c'est un film de sport ou est-ce que c'est tout autre chose ?
C'est les deux.
C'est les deux.
Donc Wimbledon avait ouvert à 16 millions, Matchpoint l'avait ouvert à 23 millions, Battle of the Sexes 12 millions. Alors Borg versus McEnroe, lui, c'était beaucoup plus faible puisque c'était 231 000. Et King Richard, 15 millions. Donc il est complètement dans...
King Richard, c'est la méthode Williams.
La méthode Williams, ouais. C'est ça. Sur le père Williams, voilà. En deuxième position, on avait un film étonnant.
Étonnant, ouais.
Unsung Heroes.
Ouais, ouais.
Sur une famille de musiciens
chrétiens,
voilà, exactement.
Genre qui marche très bien aux États-Unis, pas du tout, enfin beaucoup moins en France.
Il y a eu beaucoup de surprises justement sur ce type de film.
Récemment, c'est pas le premier hein, récemment de films chrétiens qui explose un petit peu les scores du box-office US.
Et donc qui a ouvert à 7,5 millions. Alors voilà, c'était à peu près les principales sorties sur le marché américain. Juste pour rester, c'est Warner évidemment qui domine encore le côté distributeur chez les Américains pour ce début d'année, évidemment grâce à Dune et à Godzilla. Alors sur l'international, il y a une petite surprise en tête, quoi, sur le worldwide même, puisque c'est un film coréen, Roundup Punishment, qui a ouvert à 25 millions. Alors c'est là aussi on peut voir, on se dit justement 25 millions en tête sur le marché worldwide, on peut se dire qu'on est quand même sur un petit marché cette semaine.
Ouais, Roundup Punishment qui n'est a priori pas un film sur du fertilisant, hein, a priori, c'est complètement autre chose.
Est-ce que c'est 25 millions uniquement sur le territoire
sur
coréen ?
Sur le territoire coréen, exactement.
C'est quand même impressionnant pour un démarrage.
Oui, mais ce que je veux dire sur le worldwide, avec un premier film à 25 millions, on se retrouve généralement, on va chercher plutôt autour, on se dit sur un bon week-end, on est au moins à 60 millions, voire plus haut. Donc Challenger, on en a parlé, il est en deuxième position, on reviendra sur ses résultats en France. Godzilla, toujours là, 22 millions, ça lui fait un cumul worldwide de 519 millions.
Ouais, dans 79 territoires.
Il va bientôt rattraper le Godzilla de 2014 qui avait terminé à 529, donc il manque plus que 10 millions, ça devrait bien se passer. Kung Fu Panda, c'est
celui
la bonne
2014,
surprise.
2014, qui était le plus gros score des derniers, Godzilla, King Kong, etc.
Exactement. Ensuite, en quatrième position, on retrouve Kung Fu Panda, lui qui s'en sort très bien puisqu'il vient de passer le demi-milliard de dollars de recettes avec 503 millions. Civil War, il en est où? Civil War, il a 86 millions de dollars de recettes. Fall Guy, il apparaît à 6 millions, mais sa grosse sortie américaine sera vendredi et en France mercredi. Ensuite, Ghostbuster, la bonne surprise, qui lui totalise 187 millions de dollars. Abigail, qui sortira en France d'ici...
Le 29 mai.
Le 29 mai, j'allais dire, un petit mois. Abigail, qui se retrouve à 28 millions de dollars de recettes. Donc, c'est un petit peu décevant sur le côté les films d'horreur, puisque celui-là a coûté un petit peu plus cher, puisque c'est son coût de production est autour de 30 millions. C'est vrai que généralement... Il y a une rentabilité sur les films d'horreur américains puisqu'ils ont des coûts de production très faibles autour de 5 à 10 millions. Donc celui-là, il avait besoin, on l'avait déjà dit, mais il avait besoin d'au moins 100 millions pour rentrer dans ses frais. Donc ça va être un petit peu plus compliqué.
Ouais, à noter qu'il est déjà sorti sur 66 territoires. Du coup, la France sort quand même très très en retard par rapport
à... Il sort bien après, ouais, exactement. Et on termine avec Détective Conan, lui qui est à 55 millions. Et on en a parlé, Unsung Hero qui est à 7 millions. Et on a fait le tour du box-office worldwide.
Voilà, et Unsung Hero qui est 10e du box-office worldwide en étant juste sorti aux États-Unis. Donc ça donne aussi l'ampleur de la performance. Assez parlé de musique chrétienne, on va repartir sur une affaire de principe. Et je vais laisser la parole à mes collègues, à commencer par Charlotte qui avait une question.
Oui, bah effectivement, il y a quelque chose qu'on peut pas louper, c'est que le film sort pendant la campagne des élections européennes. Donc une petite question par rapport à l'écho de ce film sur ces campagnes. Est-ce que vous pensez ou bien espérez que ça peut aussi amener les gens à aller plus voter pendant ces élections?
On l'espère, avec l'espoir fou qu'un film puisse un peu faire avancer cette question-là, ce qui n'est pas simple quand même, on est lucide. Ce qui est sûr, c'est que dans le processus qui a duré à peu près 3 ans de fabriquer ce film, on n'a pas tout de suite pensé à ça. Par contre, quand on était en post-production et qu'on s'est rendu compte que c'était possible de le finir à temps pour le sortir avant la campagne et pas en plein cœur de la campagne, parce qu'il peut y avoir un carambolage aussi, ça avait beaucoup de sens. Ça aurait été, pour le dire autrement, vraiment très 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 dommage de sortir après les élections européennes. Donc oui, on a tout fait pour le finir à temps, pour pouvoir sortir à ce moment-là de l'année, c'est-à-dire à un peu plus d'un mois du scrutin. L'enjeu, c'est que précisément parce que les parlementaires ne sont pas des héros de cinéma, enfin n'étaient pas des héros de cinéma jusque-là, que ces institutions ne sont pas des lieux de récits cinématographiques, ce film, on espère qu'il va donner un peu envie d'Europe, qu'il va donner envie d'aller y voir de plus près, qu'il va défaire un peu les clichés, les caricatures des représentations qu'on s'en fait, qui sont toujours un peu réduites, et qui va, voilà, donner envie, du coup, de s'intéresser aussi au scrutin et à nos candidats, parce que c'est crucial, évidemment, de voter. Il y a 50% d'abstention, c'est dramatique. En France, il y a une espèce d'instrumentalisation de ce scrutin comme étant une espèce de scrutin de mi-parcours de la politique intérieure, alors que c'est bien plus important que nos élections à nous. Et donc, ce serait bien que les spectateurs s'interrogent un peu, quoi.
Merci.
Vous avez évoqué tout à l'heure rapidement le choix de casting de Bully Lanners. Moi, ça m'a marqué parce que Bully Lanners, c'est un acteur qu'on reconnaît et qu'on identifie très vite quand on le voit. Et comment vous avez fait du coup ce choix d'avoir quelqu'un qu'on reconnaît immédiatement pour le personnage de José, qui est quelqu'un aussi qu'on reconnaît très vite au premier coup d'œil?
Ouais, alors je me suis pas posé les questions comme ça, mais j'ai toujours du mal à répondre à la question du choix des acteurs. C'est très intuitif, c'est vraiment un sentiment que ça peut marcher. Moi, j'adore Bully. ce que je trouve chez Bouly du personnage, alors c'est bizarre de dire ça devant José qui est juste à côté de moi, mais du José Bové de mon imaginaire de réalisateur qui veut faire un film avec un José Bové de cinéma, c'est qu'il a quelque chose de très serein, Bouly, et en même temps il a un rapport à l'autorité, bien à lui, on sent que, moi je dis souvent qu'il est un peu punk, parce que lui est un peu punk, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement il a un truc un peu rentre dedans, il a pas peur. Alors il se trouve que dans la vraie vie, Bouly est hyper investi, notamment contre le nucléaire en Belgique, ça se sait beaucoup en Belgique, moins chez nous, et il partage avec celui qu'il a incarné énormément de choses, mais c'est pas non plus pour ça que j'ai pensé à Bouly. Je sais pas, il a une nature à la fois très il a quelque chose d'un peu féminin en fait, Bouly, je trouve. Alors, ça saute pas aux yeux quand on pense à José, mais je trouve aussi que José a quelque chose d'un peu féminin et de sage, et en même temps de très terrien, ça fait cliché comme mot, mais de voilà, très les pieds ancrés, quoi, de très concret, voilà, à la fois féminin et très concret, voilà, ça c'est pas trop mal comme mot.
Très tendre.
Et, très, et une tendresse, voilà, c'est ça que je veux dire par final. Il a quelque chose d'une infinie tendresse, Bouly.
Je me permets de rebondir un petit peu sur cette question et sur un peu votre duo finalement à tous les deux. Il me semble que vous avez quand même un petit peu écrit ensemble. Est-ce que vous, ça a changé un petit peu la manière que vous aviez de, ah bah voilà, de travailler, de réfléchir, voilà, comment ça s'est passé?
En fait, quand Antoine et Marc sont venus à la maison, ils avaient déjà travaillé. Hein. Donc en fait, à part manger du roquefort, boire des coups. On a aussi un peu parlé de ce qu'il faisait. Et en fait, moi, ce qui m'importait, c'est que le... Parce que c'est compliqué, l'histoire, le chapitre, il n'est pas très sexy à lire, quoi. Hein. Ce n'est pas un roman de gare qu'on va lire vite fait dans le train. Donc, mais ils sont arrivés à tout reprendre, garder l'essentiel, pour ramener ça dans un temps court, le temps d'un film, alors que ça dure un an et demi. Et donc, c'était ça, la gageure. Et on a lu, bon, enfin, j'ai lu deux, trois, peut-être, scénarios, variations, Jean-Marc, pareil. Puis on a fait des... Juste sur les points pour être sûr que tout était bien calé sur le fond de l'affaire. Parce que c'est ça qui nous importait. Par contre, sur tout l'aspect cinéma, on leur a donné, mais totale liberté. C'est eux qui ont choisi vraiment comment ils voulaient le faire, qu'est-ce qu'ils voulaient... Comment ils font des raccourcis, donc il faut faire quelque chose de dramatique pour que ça soit cinématographique, alors que nous, c'est plus besogneux. Donc voilà, c'est une transformation. On va dire qu'on peut dire quand même que le cinéma, là, pour le coup, a embelli le réel, quoi. Et ça, c'est quand même superbe, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés complètement. Enfin, moi, je me suis retrouvé personnellement. Et que, voilà, on était tellement
en osmose.
Déjà avec Antoine et puis Marc, mais je l'ai vu moins, mais aussi avec les comédiens, que c'était normal de se retrouver tous ensemble pour faire le tour de France, quoi.
Alors dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on découvre aussi, ou en tout cas un José Bové dans un nouveau registre, quelque chose qui est le côté un petit peu moins syndicaliste. Est-ce que c'était également l'enjeu du film ou
En ce qui me concerne. Moi, je suis rentré au Parlement européen comme syndicaliste. C'est-à-dire que si je suis rentré au Parlement européen, c'est pour les batailles que j'avais déjà menées et que je voulais continuer, notamment sur l'agriculture, sur les OGM, le commerce international, les accords de libre-échange. Ça, c'était mes sujets, quoi. Mais là, quand je me retrouve confronté avec cette affaire d'Ali et l'expulsion de ce commissaire en une demi-heure, je repars à la bataille, mais pas sur un thème que j'ai choisi.
Oui, exactement.
Et donc... Ouais. Et donc, il faut y aller, quoi. Et il faut retrouver des ressorts qui ne sont pas que les ressorts du Parlement. Et donc là, on peut être un peu voyou, parfois.
Alors, Antoine, vous avez dit, les lobbies font partie de la démocratie, c'est comme ça. Ils vont continuer à s'inviter autour de la table des négociations. L'enjeu, c'est de savoir comment on gère ça avec transparence. Et là, c'est la bagarre, le film le dit. La démocratie, c'est un sport de combat. Est-ce qu'aujourd'hui, ce combat demande encore plus d'attention ou il y a des progrès depuis 2012?
Alors, il y a un certain nombre de progrès, mais ce sera toujours un combat. Il faudra toujours y consacrer beaucoup d'énergie et d'attention. On ne sera jamais arrivé, quoi. La démocratie, c'est pas une forme pure et parfaite, c'est un chemin et une bagarre et un équilibre des forces. Des progrès, oui, il y en a eu. D'abord, il y a eu un certain nombre de règles qui ont été mises en place pour un peu plus de transparence. Il y a des projets pour harmoniser les règles déontologiques entre les trois grandes institutions, c'est-à-dire la Commission, le Parlement et aussi le Conseil, qui représente les États membres, qui est le plus conservateur des trois institutions. Il y a eu la création d'un parquet européen, c'est-à-dire que vous pouvez saisir le parquet européen quand vous êtes face à une affaire comme celle-là. Par exemple, là, c'est la justice belge qui a été saisie par John Daly. Demain, si ça arrivait à nouveau, ou pour les prochaines affaires, parce qu'il y en aura peut-être d'autres, on peut l'imaginer, on pourra saisir un parquet européen indépendant. Voilà, il y a dans toutes les institutions européennes, ou presque, des comités d'éthique, des principes d'arbitrage qui sont censés veiller au respect des règles. Mais évidemment, il faut toujours et sans cesse faire attention pour qu'il y ait de plus en plus de transparence. On n'est pas rendu.
Alors juste un petit mot, parce que tu vois, parce qu'on parle de cinéma, et on a parlé beaucoup du cinéma américain par rapport à des films d'enquête.
Et qu'ils avaient l'habitude de faire.
Ils avaient l'habitude de faire.
C'était un genre qui n'existait pas en
Donc,
France.
Donc nous, on est en train de devancer les Américains, là, pour une fois. Parce qu'ils ont fait des trucs sur les politiques. Mais sur la question de la défense de la démocratie, c'est ils ne l'ont pas fait. Parce que le prochain film, parce que c'est encore plus la cata chez eux, avec la prise du Capitole.
Bien sûr.
Hein, donc là, s'il y a un endroit où la démocratie est en train d'être remis en cause, et on peut faire ce parallèle entre un modèle démocratique, parce que c'est un modèle démocratique aux États-Unis, mais comment à un moment, il peut être complètement violé et détourné et détruit, parce qu'il y a un fou quand même qui a été président 5 ans et qu'on n'espère pas revoir.
Et qui peut à nouveau briguer la présidence, on n'est pas à l'abri.
J'ai lu aujourd'hui que le prochain film d'Aaron Sorkin, qui avait fait Social Network, qui est un peu un modèle pour moi. Enfin,
un modèle scénaristique.
Oui, mais il est devenu cinéaste. Ouais. Il veut faire un film sur l'influence de Facebook sur la prise du Capitole. C'est passionnant. Et les grands dangers pour la démocratie, demain, c'est les GAFAM. C'est évident, quoi. Ils sont plus puissants que les États.
Donc, pardon, excusez-moi. En fait, justement, c'est pour revenir sur ce genre, justement, qui, j'ai l'impression, en France, commence, vous n'êtes plus tout seul, ou en tout cas, vous n'êtes pas seul, puisqu'il y avait aussi Frédéric Tellier, Goliath, en Espagne, on peut rapprocher El Reino, qui a eu aussi un impact assez important. Donc, on a l'impression que c'est presque... Alors, je pense que, pourquoi pas, techno-thriller, où il y a un nouveau genre, en tout cas, est-ce que ça va perdurer ? J'aurais envie de dire oui, mais...
Qui peut le dire ? Je ne sais pas. Moi, je suis un peu fier d'avoir fait un des premiers films de procès qui a relancé ce qu'on a l'impression de voir comme un nouvel âge d'or du film judiciaire en France. Parce qu'à l'époque, c'était très difficile de monter des films de procès. Maintenant, ça se monte très, très bien. Il y a eu des grands films. On l'espère. Il y a eu La Syndicaliste aussi, qui a très bien marché.
Ouais, qui avait fait plus de 400 000, je crois.
Ouais, quasiment 500 000.
Quasiment 500 000.
Ouais. Donc, moi, je suis sûr qu'il y a un désir du public. Voilà, c'est évident. C'est évident. Je le crois, puisqu'on a fait ce film. J'espère.
Alors j'ai une dernière question, Tom, avant de te laisser la main. Je ne sais pas si vous avez entendu le tabagisme avant 15 ans en Angleterre. Ils ont prévu de l'interdire à tous les enfants qui sont nés après 2009.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on en pense ? Ça va dans le bon sens ? Parce que ce n'est pas évident d'interdire complètement. Ça veut dire qu'on peut aussi brider des choix.
C'est même... Alors moi, je ne suis pas un spécialiste du tabac, même si j'ai vu un film qui... le gros problème, c'est que le trafic illégal, c'est une énorme part du business pour les cigarettiers. Et que moi, je ne crois pas trop à l'interdiction d'une manière générale. On sait très bien que la prohibition, ça n'a pas marché. C'est à se demander, on en discutait avec José, si ce n'est pas une idée des lobbyistes du tabac d'avoir suggéré l'interdiction. Parce que ce que ça va déclencher, d'abord, ce n'est pas de l'héroïne, la cigarette. Si vous faites attraper avec une cigarette, ça va bien se passer. Donc, ce que ça va faire, c'est exactement ce qui se passe chez nous. À chaque fois qu'on taxe très fort la cigarette et qu'on fait des paquets neutres et des mesures de santé, le tabac hurle en disant « Mais enfin, vous allez augmenter le trafic illégal. Vous êtes inconscient. » Sauf que c'est eux qui organisent eux-mêmes le trafic illégal. C'est dans leur intérêt le trafic illégal. Pourquoi ? Parce qu'ils tapent les mineurs. Donc si tout d'un coup, les mineurs qui d'eux-mêmes se mettent à moins fumer parce qu'ils comprennent bien, ils identifient que le paquet neutre, c'est un poison, le tabac, si tout d'un coup, ils ne peuvent plus acheter ça, ils vont peut-être créer un désir de vouloir aller sur le marché illégal. Et sur le marché illégal, il n'y aura plus le paquet neutre. hein, parce que vous pouvez acheter des clopes sur le marché légal qui viennent de Russie et il n'y a pas de paquet neutre, il y a marqué Marlboro dessus. Donc c'est vraiment à double tranchant. Moi, personnellement, je me méfie de l'interdiction, quelle qu'elle soit, comme de la censure. Voilà, ça a l'air bien, mais je ne suis pas sûr que ce soit très efficace et je me demande si ce n'est pas une idée perverse de l'industrie du tabac elle-même.
C'est possible, on aura la réponse peut-être beaucoup plus tard.
En tout cas, un sujet passionnant qui est au cœur d'une affaire de principe qui sort dès mercredi dans toutes les bonnes salles, en plus jour férié. On espère des très belles entrées pour vous dès ce premier jour. Merci messieurs d'avoir été à notre micro ce soir. C'était un véritable plaisir de vous avoir pour ce numéro d'Opening Weekend et on vous souhaite évidemment le meilleur.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et on va pouvoir reprendre le fil de l'émission, le fil classique de l'émission, en enchaînant avec le box-office France.
C'est hyper beau le cinéma.
On va attendre les chiffres impatiemment.
C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas.
Et accrochez-vous.
De retour pour vous parler du box-office français de ce week-end. Un box-office qui, on va dire, allez, qui frémit, qui est de mieux en mieux. On passe allègrement la barre des 2 millions d'entrées. Ce week-end, Julien, c'est un box-office pas flamboyant, mais qui annonce peut-être des jours meilleurs.
Ouais, je suis toujours un petit peu sévère, c'est un petit frémissement. Quoi. Cette fois, c'est comme le soir à la perche, on vient de passer les 5,50. Hein. Ouais. On est encore loin des 6. Hein.
C'est ça.
Donc 2,5 millions, tu l'as dit, c'est du positif. On va prendre le positif. On a quoi ? On a 9 films qui sont au-dessus des 100 000 entrées. On a un marché qui est à plus 14% par rapport à la semaine dernière. Le top 3 représente 27%, d'où ces 9 films qui sont au-dessus des 100 000 entrées. Et en tête, Charlotte, on avait quoi ?
On a Back to Black, donc le biopic sur Amy Winehouse, sorti par Studio Canal, qui va cumuler à l'issue de son premier week-end, 282 954 entrées, presque 283 000. C'est un démarrage pas trop mal, mais un petit peu décevant quand même, malgré ce qui s'est passé sur Bob Marley, par exemple.
Alors, c'est vrai que si on regarde Bob Marley, il avait ouvert à 655. Par contre, si on se retourne du côté d'Elvis, c'est exactement un démarrage complètement similaire. Alors, Bob Marley, moi, je le mets un petit peu à part, parce que c'est vrai que c'était des chiffres presque inattendu, que ce soit worldwide. Back to Black, pour moi, il a atteint sa cible. On va dire qu'il va être sur une fin de vie entre 800 et 900 000 entrées. C'est quand même le huitième démarrage de 2024. Donc, je dirais positif.
C'est chouette, mais c'est vrai que personnellement, voyant la notoriété de Bob Marley et imaginant que cette notoriété pouvait être aussi assez équivalente à celle d'Amy Winehouse, finalement, peut-être qu'on se rend compte que pas tant que ça.
Mais c'est quand même plutôt un bon signe annonçateur pour les biopics musicaux qui étaient un peu en peine hein, depuis quelques temps. Et là, Bob Marley a fonctionné et Back to Black annonce plutôt une carrière satisfaisante. Voilà, c'est plutôt bon signe pour ce registre-là. En deuxième position, c'est un film qui est désormais sur sa cinquième semaine, qui n'a pas quitté le top 3 depuis sa toute première semaine. C'est Kung Fu Panda. Quatrième opus qui a dépassé, ça y est, les 2 millions d'entrées et qui surtout perd, mais c'est plutôt logique vu qu'il y avait encore deux zones en vacances scolaires, qui perd que 7% de ses entrées. En tout cas, Julien, il est plutôt en ligne avec les précédents épisodes.
Ouais, c'est ça. Alors, il avait eu une deuxième semaine compliquée, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il est légèrement en retard, mais il rattrape son retard si on compare juste les week-ends. Mais le Kung Fu Panda 3, après la cinquième semaine, il était à 2 millions 4. Le Kung Fu Panda 2, c'était 2 millions 2. Et le Kung Fu Panda, le premier du nom, il était à 2 millions 4. Donc il n'est pas si loin. Je pense qu'il aura une petite carrière justement avec le 1er mai, le 8 mai. Donc on espère le voir autour terminé en tout cas à 2 millions 4.
Qu'est-ce que tu as à dire sur le fait qu'en deuxième position, on retrouve quand même un film qui est en cinquième semaine ?
Ben c'était surtout, ben t'es quand même sur les vacances, c'est un film d'animation, ça manque aussi de concurrence, c'est une franchise. Donc non, ça paraît assez logique qu'il soit à cette place. Et d'ailleurs, même si on reprend Sonic 2, qui était vraiment où ça matchait parfaitement, il a repris de l'avance, puisque Sonic 2, en cinquième semaine, il était à 1,9 million.
Est-ce qu'on pourrait dire que Kung Fu Panda, du coup, il aura régné vraiment sur ses vacances de printemps ?
C'était surtout, heureusement, Kung Fu Panda était là. Ouais.
Ça a été un des sauveurs avant les arrivées de Fall Guy, de La Planète des Singes et de Furiosa. C'est vraiment le sauveur de ces vacances de printemps. En troisième position, renouvellement qui se confirme en tête du box-office, puisque N'avoue jamais d'Ivan Kalberak est lui en troisième position avec 188 000 entrées à l'issue de ses cinq premiers jours. Le film est sorti par Wild Bunch, on le rappelle, et c'est plutôt un beau score, d'autant que le film n'a pas coûté si cher, un budget de 5 millions d'euros.
5 millions, c'est ça fonctionne. Sa dernière réalisation, Venise n'est pas en Italie, avait fait le même démarrage. Il avait ouvert à 192 000 entrées. Il avait terminé au-delà des 500 000. Donc le public senior a répondu présent. Avec un beau casting,
et ce qui a forcément aussi aidé. Autre film d'animation qui a été très présent pendant ses vacances, c'est du Kobu Passe au Vert. Lui, il est sur sa quatrième semaine, et il en est où, Charlotte ?
Eh ben, il rajoute 17% hein, à son cumul d'entrées. Il se rapproche de la barre du million en atteignant 805 000 entrées à l'issue de sa quatrième semaine. Comme d'habitude, du Kobu fait bien son travail. En tout cas, il fait bien ses devoirs puisqu'il fait de très belles entrées.
Indémodable du Kobu.
En cinquième position, encore un démarrage, encore un film français. Il s'agit de Frères, sorti par Zinc. 184 000 entrées à l'issue de ses cinq premiers jours et départ 9 600 entrées d'avant-première. Et bah, écoutez, c'est plutôt un démarrage satisfaisant. Pareil pour un film qui n'a pas coûté très cher, hein, 4 millions d'euros de budget. Et c'est surtout le deuxième meilleur démarrage de l'histoire de Zinc. Derrière on s'en souvient, leur toute première sortie, les petites victoires en 2023. En sixième position, c'est un film en continuation, SOS Fantôme, La Menace de Glace, lui est en troisième week-end, 722 000 entrées pour le film sorti par Sony, moins 7%. Qu'est-ce qu'on en pense, Charlotte, de ça ?
Bah, honnêtement, on en pense que c'est quand même plutôt pas mal. Ça reste un film qui avait pour but, je pense, de réunir aussi beaucoup d'anciens fans. Apparemment, les fans sont au rendez-vous, la cible est comblée. Voilà, je pense qu'il va atteindre son million assez facilement.
Ouais, belle surprise, surtout que le précédent Afterlife, il avait, on va dire, un petit peu déçu, puisque si on les compare, il y en a un qui a plus de 700 000, l'autre au même moment de son exploitation, il était à 485 000 entrées. Donc,
et au cumul, il avait fait moins de 700.
Et il avait fait moins de 700, donc il a déjà dépassé le précédent.
Ouais, et surtout, moi, ce que je remarque sur SOS Phantom, La Menace de Glace, c'est qu'il y a deux chutes de suite en S2 et en S3 qui sont à 10% et 7%, donc des chutes très limitées grâce aux vacances scolaires. Donc le film a réussi à toucher son public, et ça se passe bien pour
SOS Phantom. C'est marrant, il s'est vraiment comporté presque comme un film d'animation, c'est un film familial, en tout cas, là-dessus, il n'y a pas de doute.
Civil War d'Alex Garland, lui, a quitté le podium et est désormais retrouvé sur son deuxième week-end en septième position. Il cumule désormais 426 000 entrées. Il a ajouté 142 000 entrées à son total. Moins 35%, c'est une baisse tout de même significative pour des vacances scolaires. Et ça lui met aussi, c'est la plus grosse baisse du top 10 en tout cas.
Ouais, mais c'est pas étonnant, en fait, on voit que tous les films qui ont les COEF Paris-Provence les plus bas ont également les chutes les plus hautes, ce qui est logique vu qu'on est sur la fin des vacances scolaires sur la région parisienne, et donc Civil War fait les frais de ça.
Et donc forcément les films parisiens en pâtissent plus.
Charlotte, en 8e position.
En 8e position, on retrouve Challengers, le nouveau film de Luca Guadagnino, avec Zendaya effectivement en tête d'affiche, qui va démarrer avec 140 768 plus 9 000 d'avant-première, à savoir donc presque 150 000 entrées. Écoutez, je ne peux pas être noir ou blanc sur cette sortie, puisque avec un coefficient Paris-Provence de 2,5, c'est un film très très parisien qui fonctionne donc à mon avis très 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 bien à Paris, et effectivement potentiellement un petit peu moins bien en province et en profondeur. Donc voilà, c'est vrai que c'est une sortie, je dirais, mitigée. Je ne sais pas ce que tu en penses, Julien, mais moi c'est ce que je dirais.
Non, c'est difficile de le positionner. Est-ce qu'on l'attendait plus haut ou pas ? C'est pas une évidence, parce que à la base déjà, il devait presque même pas sortir au cinéma. Donc presque, il est basé, tout tourne autour de Zendaya. Et c'est là où on se rend compte que c'est très centre-ville, très grande ville. Après, si on prend même juste De Combs, il fait le double de Anyone But You, Tout Sauf Toi, pardon. J'ai les gros yeux de Tom, de Tout Sauf Toi, qui avait ouvert à 76 000.
On lui souhaite la même trend TikTok, alors.
Alors voilà, il y avait la trend TikTok parce qu'il avait terminé à 600 000. C'est
absolument
là où on se rend compte de la
folie. C'est ça qui peut
alors
se passer aussi.
Je ne pense pas.
Pour ceux qui ont vu le film, j'espère qu'il n'y aura pas de trend TikTok, parce que je ne sais pas où elle va nous mener, celle-là.
Non, mais honnêtement, on va voir un peu comment le film va se comporter. Hein, mais c'est vrai que c'est vraiment un film parisien. C'est le plus petit COEF Paris-Provence de tout le top 10. Voilà, donc c'est un film qui fonctionne très très bien à Paris et moins bien en province, donc c'est voilà, on est mitigé quoi.
Sauf erreur de ma part, c'est aussi le plus gros démarrage de loin pour Lucas Guadagnino.
Plus 74% versus Call Me By Your Name.
Voilà. Et on est au-dessus des cumuls de ces derniers films, donc à savoir Bonza Knoll, qui avait quand même Timothée Chalamet en tête d'affiche, même si le film était très particulier, et Suspiria.
En 9e position, on en parlait lors du box-office US et international, il revient pour sa 4e semaine, c'est Godzilla Kong qui a dépassé, ça y est, le million d'entrées.
Bravo à lui.
Bravo ouais, à lui, c'est un autre film Warner, hein, d'ailleurs, en 8e et en 9e position. C'est une belle performance, hein, puisqu'il va faire mieux que les deux précédents épisodes.
Et petite chute, hein, moins 19%, c'est très bien, c'est bien. Très correct.
Il profite à fond des vacances ouais. scolaires, ouais. Et on termine ce top 10 avec un film français qui a été très présent également pendant ses vacances et qui, lui, n'en est que à sa 3e semaine, donc il a encore une belle réserve d'entrée avec lui. C'est Nous les Leroy, qui est désormais à 460 000 entrées sorties par Apollo. Voilà, c'est vraiment le film qui a démarré tranquille et qui se maintient bien et qui peut monter maintenant vers les 600, voire 700 000 entrées avec un peu de chance.
Ouais, il est aux portes des 500 000, le film tient, il plaît, donc on lui souhaite le meilleur.
Les autres démarrages de la semaine sont à retrouver un peu plus bas, à commencer par le Mangeur d'âme, sorti par Star Invest, 14 000 entrées. Le Déserteur par Dulac Distribution, 14 000 entrées également. Première affaire, on est chez Tandem Film, 13 800 entrées. Un jeune chaman chez Arizona, 9 000 entrées. Skydome 21-23, 7 492 entrées. Et je terminerai avec Notre Monde. Là, c'est chez Gaumont, 4 000 entrées pour une petite combinaison hein, tout de même sur Notre Monde, sorti sur 57 copies.
La semaine a été compliquée, hein, j'ai l'impression, pour les démarrages qui ne sont pas les 4 du top 10 qui s'en sortent bien. Pour les autres, ouais. La semaine a été un petit peu rude. On voit qu'il y avait le marché est meilleur que la semaine dernière, mais ça manquait quand même un petit peu de dynamisme pour tous ces démarrages.
C'est vrai que tu fais très bien de le souligner, le marché est, comme on le dit, assez peu volatile, puisqu'il se concentre finalement sur un petit nombre de films. Est-ce que vous voulez noter un autre film du top 20, du top 30, où on passe à la suite ?
Moi, je voulais quand même parler des Choristes, hein. Ils ont j'étais obligée quand même parce que j'aime vraiment beaucoup ce film. Mais c'est vrai que pour une reprise, voilà, ils vont aller taper les 60 000 entrées, ce qui est quand même très bien pour une reprise 10 ans après d'un film qui a quand même été vu du grand monde. Donc c'est chouette, c'est que l'expérience cinématographique continue d'attirer du monde, donc c'est bien.
Est-ce que vous avez déjà dit que Dune avait passé les 4 millions ?
On l'a déjà dit, mais c'est bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler.
Ça fait Warner surperforme en tout cas.
En tout cas, la semaine à venir, elle est réjouissante en termes de films qui arriveront dans nos salles, dans nos écrans. Comme d'habitude, ma fille nous a concocté un sondage Twitter où elle n'a pu sélectionner que 4 titres. Tu n'es pas ma fille, mais tu seras Charlotte, son porte-parole aujourd'hui. Quels ont été les 4 films sélectionnés et qui a été vainqueur ?
Exactement, je serai le porte-parole de ma fille à qui je passe le bonjour. Eh bien, les 4 films, c'était le film d'Universal, à savoir The Fall Guy, le film de Metropolitan, Jusqu'au bout du monde, le film de Pyramide, Le tableau volé, dont on entend quand même pas mal parler, et donc Une affaire de principe, et évidemment, la sortie de Memento. Arrive en tête, hein, très, 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 très largement, The Fall Guy, donc un nouveau blockbuster qui arrive en force, à voir un petit peu ce que ça va donner et à quel point ça va rebooster un petit peu le marché. 68% pour The Fall Guy. Ensuite, se tâtonne entre Jusqu'au bout du monde et Le tableau volé à 13 et 12%. Et enfin, Une affaire de principe avec 7%, à voir ce qui va se passer un petit peu mercredi.
Ce ne sera pas les seules sorties de ce mercredi, un mercredi très attendu, mercredi 1er mai, qui est historiquement un des jours de fréquentation les plus forts de l'année. Qui plus est, si la météo mauvaise se confirme, alors là, ça pourrait être un vrai bon mercredi pour ces films-là, mais aussi pour les autres sorties, à savoir Petite Main, qui est une comédie du Pacte, Un petit truc en plus, comédie également réalisée par Artus, par l'humoriste Artus chez Pan Distribution, Les Cartes du Mal, c'est un film d'horreur chez Sony, Jusqu'au bout du monde, on en a parlé, également Borderline, qui est un drame espagnol chez Condor, La fleur de Bourouti chez Ad Vitam, c'est un drame, État limite, un documentaire français chez Les Alchimistes, et enfin dans des plus petites combinaisons, Même si tu vas sur la lune, c'est un documentaire français chez Moonlight, et enfin on a L'ombre du feu chez Carlotta, Et le silence de Cybèle chez DHR. Voilà, on a été, je pense, le plus complet possible sur l'actualité box-office de la semaine. On remercie, puisqu'on ne l'a pas fait en début d'émission, Memento, le distributeur d'Une Affaire de Principe, de nous avoir accordé cette interview exclusive avec José Bové et Antoine Rimbaud, le directeur du film. Et nous, on se retrouve évidemment dès la semaine prochaine pour décrypter les démarrages et pour décrypter ce mercredi 1er mai. À très vite.